Gloire à Dieu.
Nous aimons chanter.
Nous aimons chanter la gloire de Dieu et nous nous réjouissons et nous bénissons celui qui nous a tant aimés. Sommes reconnaissants au Seigneur pour ce culte d'adoration que nous avons eu ensemble, pour les chants que nous avons chantés à la gloire de Dieu, à la gloire de notre Seigneur, pour ce moment de louange et d'adoration, où il y a eu quelques dons spirituels et qui nous ont encouragés, fortifiés. Nous avons aussi partagé le repas du Seigneur, la scène, et puis l'écoute de la parole de Dieu. À qui ai-je ouvert la porte? Béni soit le Seigneur, parce que nous croyons à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, nous le vivons, et pour nous, pour notre vie spirituelle, nous construisons notre vie parce que nous sommes des constructeurs. Si nous envoyons nos enfants à l'école parce que nous voulons qu'ils soient construits. Et nous construisons notre vie. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette construction spirituellement aussi. Il y avait beaucoup de personnes, et puis une personne qui était là pour la première fois me disait « Merci pour le témoignage ». Nous avons aussi prié pour un enfant, je ne sais pas s'il a 3 ou 4 ans, il allait à l'heure des enfants, et ce petit est frappé d'une leucémie et la tristesse envahit mon cœur quand je suis allé prier pour lui et que j'ai appris cette mauvaise nouvelle, c'est que nous ne la connaissions point. Et je crois qu'il est important que nous puissions partager les bonnes nouvelles et aussi partager les mauvaises nouvelles. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la prière. Nous croyons aussi que le Seigneur est celui qui fait grâce. Nous vivons des temps difficiles. Je parle sur le plan religieux, sur le plan de la foi. Et aux nouvelles que nous apprenons, l'Église de Jésus-Christ est confrontée à de véritables défis. Comment allons-nous relever ces défis? J'ai appris que nous sommes la 4e nation dans l'athéisme. 40% de Français sont dans l'athéisme. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, quand il y a eu, vous savez, quel est le mouvement, la réforme, ou plutôt, oui, qui ont ouvert la porte à ce dont vous savez, je parler avec un pasteur suite à ce que je viens de dire, elle m'a dit ils sont en train de retirer de la confession de foi la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu et le Saint-Esprit n'est pas une personne divine mais seulement une puissance. Là, nous touchons au cœur de l'Évangile, de la Bible. C'est fait. Ça va être retiré dans quelque temps. Nous sommes confrontés à tout cela. Et nous voulons confesser qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La société, elle peut changer. Elle changera encore. Vous le savez. Et si nous sommes entrés dans la colère de Dieu, les jugements de Dieu, personne ne peut rien arrêter. Mais nous sommes dans cette période si difficile. Mais nous avons besoin de confesser, de vivre la parole de Dieu. Bien-aimés dans la foi, si nous croyons que Jésus-Christ est seulement un homme, si nous croyons que l'Esprit-Saint n'est pas une personne divine, mais tout simplement une puissance, les Bibles ou la Bible va se retirer. Et où les âmes vont-elles aller chercher la nourriture spirituelle? La parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Et j'aimerais cet après-midi vous parler, après une journée de travail, et j'aurais pu mettre à la place cette journée une journée de bonnes nouvelles. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6e. Et à partir du verset 24e. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Chapitre 7e, verset 3e, il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. » Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. » Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Amen. Amen non point pour le châtiment, mais pour ce que nous avons lu, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Est-ce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire, cette journée est une journée de bonnes nouvelles? Alors je voudrais vous encourager, parce que il y a de cela des décennies en arrière, nous habitions dans un autre quartier, et puis le matin, me levant très tôt, faisant mon culte personnel, j'ai lu cette parole de Dieu. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alors je me suis dit, je commence bien ma journée. J'étais vraiment content. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai regardé par la fenêtre et je n'ai plus vu le véhicule. Alors je suis allé voir mon épouse. Et je lui dis, tu as garé où la voiture hier soir? Elle dit, devant. Et elle est venue, et nous avons regardé, la voiture était partie. La seule unique qui était partie, c'était la nôtre. Alors j'ai continué paisiblement à faire ce que j'avais à faire, et puis dans la matinée, j'ai téléphoné au commissariat pour leur dire ce qui venait de m'arriver. Et ils m'ont dit, mais c'est à ce moment-là que vous nous informez, vous auriez dû le faire immédiatement. Et puis, on m'a téléphoné ensuite, votre véhicule a été retrouvé dans le centre de Nantes. Alors je me suis réjoui, parce que rien n'avait été volé dans le véhicule. Nous avions le poste de radio, puis il y avait des cassettes. Et c'était des cassettes évangéliques. Je me souviens encore de la cassette, c'était du pasteur Yonggi Cho, et il parlait avec vigueur, il parlait du diable, il parlait des démons. Très certainement, quand ils ont entendu parler du diable, des démons, ils se sont dit, mais c'est une voiture hantée, on va recevoir la bénédiction, on va recevoir le châtiment, et ils l'ont laissé à la cité du Neptune. Alors j'ai retrouvé, j'ai repris possession de notre véhicule, bien sûr elle a été fracturée, il a fallu la réparer, mais tout s'est bien fini. Mais quand je me suis levé, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ce qui veut dire que vous vous êtes peut-être réveillé ce matin et en réalité, vous vous êtes dit, c'est dimanche, je vais me reposer, je vais me relaxer et voici que les mauvaises nouvelles sont arrivées. Mais cet après-midi, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dites-moi, que faites-vous quand vous ne pouvez rien faire? Et que pouvons-nous faire lorsque nous ne pouvons rien faire? Eh bien là, la Bible nous parle de quatre hommes. Quatre hommes à l'entrée de la porte. Et ces hommes se parlèrent l'un à l'autre. Quelle était leur conversation? Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Quel était l'espoir de ces quatre hommes. Et vous auriez vu ces quatre hommes à l'entrée de la ville. Ils étaient affamés. Ils étaient découragés, désespérés et conscients d'une mort imminente. Et ces hommes ont dit, mais si nous rentrons à l'intérieur de la ville, eh bien, nous allons mourir. Pourquoi ? Parce que nous ne l'avons pas lu, mais ce que nous avons lu, c'est qu'il y avait une grande famine, et la famine, elle serait dure. C'était les risques, les suites de la guerre. Nous remarquons le fruit de la guerre à l'heure actuelle. C'est la famine, c'est les morts. C'est impossible dans notre 21e siècle de pouvoir mourir de faim, et pourtant on meurt de faim. De voir toutes ces personnes déportées. Et ces quatre hommes ont dit, si nous entrons à l'intérieur, nous allons mourir. Il n'y avait rien à manger. Le roi, quand il est passé, eh bien, il a entendu le cri de cette femme qui a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Ce n'est pas une histoire de cannibale. Malheureusement, nous avions un membre de notre famille qui était missionnaire. Elle eut une famine dans le nord du pays et ils ont été amenés à manger aussi les enfants. Ce qui voulait dire que la détresse serrée, moi qui ai beaucoup voyagé, combien de fois je me suis dit, tu ne fais que de passer, mais ces gens sont dans une situation indescriptible. Je me souviens un jour dans un pays, on faisait un repas par jour. Et l'on m'avait dit, arrivant dans la ville, vous irez dans tel restaurant, mais un petit restaurant, et puis vous pourrez prendre les deux repas. Mais quand j'ai appris qu'on ne faisait qu'un repas par jour et que les chrétiennes venaient m'apporter le repas dans ma maison, j'ai dit, je ne ferai qu'un repas par jour. C'est difficile de manger qu'un repas par jour. Quand on est habitué à en prendre deux, plus le petit déjeuner, plus le goûter. Et quand je suis rentré de cette mission, mes enfants m'ont dit, papa, tu as grossi. Et oui, j'avais grossi, parce que je me souvenais que quand j'étais gosse, eh bien avec le pain, on pouvait manger du sucre. Et comme dans la maison, il y avait une boîte d'un kilo de sucre, eh bien j'ai mangé du sucre avec du pain. Quand vous n'avez que ça à manger, ben vous grossissez. C'est déjà bien de manger un morceau de pain, un verre d'eau et quelques morceaux de sucre. Mais quand vous n'avez rien, quand vous n'avez rien, les gens avaient à faire face à de graves problèmes. Et quelle que soit notre nation, notre tribu, notre langue, nous devons faire face à de graves problèmes. Pourquoi espérer, dit Job, quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Quand Jésus dit sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire devant l'actualité internationale. Les hommes qui nous dirigent ne savent que faire. Ils sont dépassés par les événements. L'homme est angoissé. Il n'ose penser au futur. Un jour, l'on a interviewé un Français qui fut pris en otage dans un avion. Il dit « J'ai prié, mais je me suis refusé de penser au futur. » Ces quatre hommes, lépreux, affamés, désespérés, ne pensèrent pas mettre fin à leur jour, ils pensèrent au futur. Cet après-midi, j'aimerais que vous puissiez penser au futur. Certaines personnes préfèrent se laisser envahir par des pensées suicidaires plutôt que de penser au futur. Il nous faut penser au futur. Il faut, comme ces hommes, examiner leurs conditions. Ils ont pensé aussi à sauver leur situation en considérant ce qu'ils pouvaient faire. La première chose, c'est pourquoi resterions-nous assis jusqu'à ce que nous mourions? Il faut considérer la situation en considérant ce que vous pouvez faire. La situation peut être désespérée à cause de vous-même, d'un enfant, de la maladie, de la magie, de la violence, de l'immoralité, d'un deuil, de la drogue. Et nous pourrions encore ajouter à cette liste qui pourrait être longue. Pourquoi resterions-nous ici assis jusqu'à ce que nous mourions? L'endroit où vous avez l'habitude de vous asseoir est peut-être l'endroit de la mort. C'est une question de vie ou de mort, il vous faut faire quelque chose. Je me souviens, avant de connaître Dieu, l'endroit où je m'étais assis, c'était l'endroit de la mort. J'avais une passion terrible. C'était le jeu, c'était le poker. Et je me souviens, deux amis, nous étions le trio. Eux étaient allés à Paris en rentrant le soir de Paris, il y avait 50 kilomètres. Dans le milieu de la nuit, ils ont joué aux cartes, ils ont joué au poker. Et dans l'après-midi, lorsque nous nous sommes retrouvés, ils m'ont dit « Écoute, on a joué cette nuit au poker, il faut que tu joues avec nous au poker ». Alors j'ai joué au poker, et on jouait avec les allumettes. Puis quelques instants après, on a dit « on va commencer à jouer avec des pièces de 10 centimes, 20 centimes ». Alors on a sorti les pièces des 10 centimes, 20 centimes, etc. Puis ensuite, on est allé dans un cercle de jeu. Nous étions tous mineurs. Mais on est entré et on a commencé à jouer avec des adultes qui avaient 50, 60, 70 ans. Et là, c'était des sommes colossales. Je me souviens d'une soirée, nous étions enfermés dans cette salle de jeu, et sur la table, il y avait que les jetons, l'argent était dans la poche du trésorier, il y avait le prix d'une voiture, d'une Dauphine, 600 000 centimes, à 22 heures. C'est énorme pour un jeune qu'à 16, 17 ans. C'est énorme. Il a fallu toute la grâce de Dieu, toutes les heures, la nuit que j'ai passée, toutes les heures. Je me levais le samedi matin, par exemple, et je ne me recouchais que dans la nuit du lundi au mardi, du dimanche au lundi. Nous passions tout notre temps au jeu. Nous étions pris. L'endroit de la mort. L'endroit de la mort. Mais Dieu soit béni de ce qu'un jour, à une table de jeu, à une table là où le poker était, où il y avait l'argent, les mêmes personnes, tout à coup je me suis mis à trembler. Et puis on m'a demandé ce que j'avais. Et j'ai dit j'ai rien. Et puis ensuite j'ai tremblé de plus en plus. Et j'ai dit payez-moi, je vais partir. Et lorsque j'ai vu ma maman avant de reprendre le train, je lui ai demandé, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Et le cheminement faisant dans le train, là, j'ai commencé à laisser fissurer le béton que j'avais fait intérieurement en moi, c'est-à-dire aucune fissure pouvait y arriver, la dureté de l'enfance, toutes ces choses me permettaient de ne pas me laisser branler en quoi que ce soit. Et c'est là, dans cette chambre d'hôtel où je vivais, que le Seigneur Jésus m'a libéré, m'a rencontré, et les chaînes du jeu ont tombé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction du Seigneur. L'Évangile nous révèle ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de bénédiction. L'Évangile nous révèle aussi ce qu'est le diable, ce que sont les passions, mais Dieu soit béni. Il vient nous libérer. Il vient nous rencontrer. Et ces quatre lépreux firent une chose. Ils se levèrent de l'endroit où ils étaient. Il y avait longtemps qu'ils étaient là assis. C'était devenu un endroit familier. Nous sommes familiers avec nos endroits. Si vous regardez certaines personnes, ils seront familiers au jeu. La France a sombré dans le jeu. Nous serons familiers dans nos passions aussi. Discothèque, prostitution, que sais-je. Toujours est-il que ces gens étaient tellement habitués, combien ils auraient dû craindre de lui tourner le dos, de renoncer à cet endroit, de se lever, de se diriger vers l'inconnu, là où était le camp de l'ennemi. Nos endroits sont familiers. Vous le savez, nous nous occupons des garçons de la rue et des filles avec nouveau départ. Parlez avec eux.
Vous verrez qu'ils ont leur territoire. Ils ont le langage de la rue. Ils savent que quand ils auront fait 15 ans de la rue, tout sera fini pour eux, parce qu'ils savent que c'est l'âge où ils vont mourir. Mais que c'est leur territoire. C'est leur territoire. C'est leur langage. Allez prendre leur territoire. Essayez de les bousculer dans leur territoire. Essayez de bousculer les quatre lépreux. Allez un peu plus loin, les garçons. Allez, vous-en. Vous êtes la risée de notre pays. Allez-vous-en. J'ai connu un pays qui a vécu longtemps sur le marxisme. Il n'y avait aucun handicapé dans cette nation, aucun. Ou s'il y en avait, on ne les voyait pas. Mais on savait qu'à 20 heures, les véhicules passaient et tous les enfants, tous les adultes anormaux, ils montaient dans le camion, dans le véhicule, et on ne les revoyait plus jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne les revoyait plus jamais, parce qu'on les faisait mourir. Allez les lépreux, vous êtes la honte, vous êtes affamés, vous êtes impurs, allez bousculer, bousculer. Mais en réalité, ces quatre hommes, ils vont faire une chose. Et Dieu est tout puissant. J'ai été réjoui lorsqu'en Amérique, il y avait une chorale, c'était un grand rassemblement des assemblées de Dieu. Il y avait une chorale avec 900 choristes. Ah oui, gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas l'air de dire gloire à Dieu. 900 choristes. Ça serait formidable si nous avions une chorale de 900 choristes. Ça vous fait réagir là, hein? 900 choristes. Alors bien sûr que ça venait dans ce rassemblement de droite et de gauche. Mais 900 choristes qui avaient touché à la drogue, qui avaient touché à d'autres choses, où les chaînes étaient libérées. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je me souviens, dans cette mairie de Nantes, un couple s'était marié, et donc je suis allé lors de leur célébration mariage civil, et je dis à l'adjointe au maire, « Madame, ce jeune couple-là que vous venez d'unir, eh bien voici ce qu'ils étaient avant, voici ce que Dieu a fait dans leur vie. » Ah, elle était étonnée. Dieu est tout-puissant pour nous libérer de nos chaînes, pour changer notre vie. Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Levons-nous, il n'y a aucun espoir pour nous. Si nous retournons dans la ville, nous y mourrons de faim. Si nous restons ici, nous mourrons également. Levons-nous et allez au camp des ennemis. S'ils nous tuent, nous mourrons, et il est possible qu'ils nous laissent la vie. Ils se levèrent de l'endroit où ils étaient assis, là où était la place de la mort. Mais quelques jours, la veille plutôt, devant la situation indescriptible, le prophète, l'homme de Dieu dit, « Demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleurs de farine pour tel argent à la porte de Samarie. » Le prophète, au milieu de la famine, ose dire « Demain, il y aura à manger. » Il y aura à manger. Vous savez, des fois, on est placé devant certaines circonstances. Il y avait un jeune que j'allais rendre visite dans l'endroit où on est privé de liberté. Et puis quand je m'y rendais, et là il répandait son âme, elle répandait son âme. Et puis, il connaissait l'Évangile, ses parents chrétiens. Et puis, c'est vrai, pour ce qu'il avait fait à mes yeux, à moi, ça ne veut pas dire que j'avais raison. Mais ça me disait quand même, il est là depuis des mois. D'un seul coup, j'ai été saisi par l'esprit et en lui disant au revoir, c'était un mardi, je l'ai appelé par son prénom et je dis ce soir à 17h, la porte s'ouvrira et on te dira que tu es libre. Et nous sommes séparés. Ce mardi, je me rappelle, c'était pas une belle journée. Il pleuvait, faisait froid. Et en marchant pour gagner ma voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et puis sa maman, elle vient à la réunion le mardi soir, donc quelques heures après, et elle me dit, ça y est, mon fils a été libéré. Et à quelle heure? 17h. Oh là là! Alors là, vous êtes content, là. Oh, vous bénissez Dieu. Vous savez, vous avez envie de sauter sur l'estrade. Vous avez envie vraiment de... Oh là là, c'est formidable! Sa maman était là encore ce matin au culte de l'adoration. Notre Dieu nous fait dire des choses parce que lui-même, il sait ce qu'il va faire. Demain, il y aura à manger. Je me souviens, Saint-Sébastien, nous avions le lieu de culte avant que nous soyons à Rosé. Et puis, dans cette réunion, nous étions un petit nombre ou un nombre restreint. Et voici que dans la prédication, je dis ce soir, quand vous rentrerez chez vous, eh bien, votre mari sera rentré. Et la personne, elle a pris ça pour elle. On me dit à la sortie, le monsieur a quitté son épouse. J'ai dit, qu'est-ce que j'engordis? Et quand elle est rentrée chez elle, son époux était revenu. Dieu fait des choses extraordinaires. Nous limitons parfois la puissance de l'Évangile. Nous limitons la puissance de notre Seigneur. Parce que nous avons notre manière de voir, notre manière de penser. Mais en réalité, ces hommes se levèrent et ils vont partir. Permettez-moi de rentrer dans l'intérieur de votre cœur. Où êtes-vous assis dans vos pensées? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment, à l'instant même? Qu'est-ce que vous pensiez avant de venir à la réunion? Qu'est-ce que vous pensiez avant de... Il y a quelques jours, qu'est-ce que vous pensiez? La Bible nous dit que le diable avait inspiré au cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Le diable est venu. Il a inspiré le cœur de Judas. Il faut que tu vendes le maître. Il faut que tu livres le maître. Et Judas, enfin, il a dit oui. Je me souviens d'un couple qui est chrétien, que nous avons baptisé il y a des décennies. Il avait un petit frère, qui est devenu un grand frère, bien sûr. Et le gosse, les enfants parfois, ça peut faire des bêtises. Hein, les enfants, c'est vrai. Oui ou non? Oui. Ben oui, parce que nous, on n'est pas savants, vous, hein. Les enfants peuvent faire des bêtises et ils inventent toutes sortes de choses parfois. Et puis, un petit garçon, il a mis un haricot coco dans son nez. Et comme c'est un endroit marécageux, des fois, et il ne pouvait pas. Et le soir, quand il est rentré, il ne pouvait pas, il n'a rien dit à personne. Puis au bout d'un certain temps, l'haricot coco a commencé à germer. Alors c'était désagréable. Alors il a fallu le dire à la maman. Elle a fallu le conduire chez le docteur pour qu'il extrait ce haricot coco. Que de pensées germent comme le haricot coco. On se demande comment se fait-il qu'il y ait quelque chose de bon intérieurement dans chaque être humain que d'un seul coup c'est la folie. Que l'être humain devient incontrôlable. Que l'être humain ne sait plus ce qu'il fait. Et chers amis, vous devez vous lever de votre place. Vous diriger vers le chemin de la foi. Là où Dieu est, et là où il y a des délivrances, des guérisons, des changements de situation, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu est au milieu de nous. Je me souviens quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai eu 6 fractures, et donc j'avais bien du mal à marcher, et j'étais dans l'incapacité de courir, bien sûr. Ça faisait des mois que j'étais comme ça. Puis il y avait un évangéliste qui passait dans notre église, c'était un frère Tichelam, et le pasteur l'avait invité. Et je me vois encore au fond de l'église avec mon épouse. Et d'un seul coup, le pasteur, l'évangéliste, dit « Voilà, il y a quelqu'un qui a des maux de rein. Dieu guérit maintenant. » Et nous savions que cette personne, elle était venue avec nous. Nous l'avions amenée à la réunion. Nous avons été bouleversés quand nous avons entendu cette parole de connaissance. Et cette personne a été guérie par le Seigneur. Alors je me suis dit, je vais à l'imposition des mains. Alors j'ai regardé partout, j'avais mal. Et puis, l'évangéliste a prié pour moi. Et quand je suis revenu, j'avais encore plus mal qu'avant. C'est terrible. Et le lendemain soir, je reviens et je dis hier soir, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Je crois que tu m'as fait grâce, Seigneur. Et je ne retourne pas à l'imposition des mains, mais tu m'as fait grâce. Et nous étions là, un groupe de jeunes gens, de jeunes filles. Et tout à coup, à sortie de la réunion, voici que quelqu'un dit, on fait une course. Et moi, je ne me suis plus rappelé de l'état dans lequel j'étais, mais tout à coup, je me vois courir. Et je dis « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !» Alors là, on aurait pu dire « C'est un fou, il sort de chez les pentecôtistes !»« Gloire à Dieu ! Ah, je courais ! J'étais content !» Je courais à ma manière, mais je courais. Dieu est merveilleux. Et ces 4 hommes au crépuscule, c'est peur la nuit. Ils ont peur. C'est une question de vie ou de mort. Mais quand ils vont arriver, c'est le silence. Ils rentrent, ils prennent, ils regardent, ils reprennent. Ils disent, mais cette journée est une bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Il faut que nous retournions à Samarie, annoncer. Mais à Samarie, non, le roi dit c'est pas possible. C'est impossible. Mais en réalité, ce que l'homme de Dieu avait dit, c'est ce qui s'est produit. Il y eut à manger. Il y eut quelque chose pour cette foule, pour ses habitants, tout a changé. Dieu est tout puissant. Dieu est merveilleux. Je faisais une réunion à 9h30 un jour, il n'y a pas très longtemps. Il y avait 6-7 personnes qui étaient là, je crois 4 nouvelles. Tout le monde avait éteint son portable. Et puis à la fin de la réunion, qui s'est terminée vers 10h30, 11h, la femme, elle prend son portable. Oh, elle dit, ça y est, j'ai trouvé du temps, on me demande d'aller pour travailler. Formidable, hein? C'est formidable. Dieu peut changer les circonstances parce qu'il y eut un bruit, le bruit de Dieu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y eut un bruit venant du ciel. C'était le bruit de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Le monde a été enflammé parce qu'ils allaient travailler de par le monde entier. Le bruit de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Levez-vous de votre place et venez à la croix du calvaire. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de bénédiction. Aujourd'hui, c'est jour de délivrance. Que votre cœur retourne l'espoir et que son nom soit glorifié, adoré à tout jamais, au siècle des siècles, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, vendredi soir tard, je suis passé pour prier pour cet enfant. Et ce matin, le papa, la maman, la mamie étaient là au culte de l'oration. Bien sûr, quelqu'un d'autre s'occupait du bébé, de l'enfant. Mais je me suis dit, certains auraient dit, non, faut que tu restes, on va rester là. On envoyait un texto à l'église pour qu'on prie. Non! Les parents laissaient un enfant en train de mourir. Mais ils ont cru, ils ont raison de croire que leur place était là ce matin. Que leur place était là ce matin. Il faut en terminer, mes frères et sœurs et amis, avec toujours nos petites douleurs, avec ceci, cela. Ah, je peux pas aller à la réunion ce soir. Ah, je suis fatigué. Et quand je demande à quelqu'un, est-ce que vous êtes fatigué le soir? Il dit, oui, je suis fatigué. Ben, je dis, c'est normal, c'est la fin de la journée. Ah oui. Mais mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, elle est dans notre maison. Mais la bénédiction de Dieu, on la reçoit aussi là. Est-ce que nous croyons? Ses parents ont eu raison. Raison de toucher la grâce et la bénédiction du Seigneur. Raison. Nous, nous sommes avec nos raisonnements qui sont de véritables armes. Mais Dieu est tout puissant. Qu'il nous bénisse, qu'il nous donne sa grâce, sa bénédiction. Ces hommes ont sauvé. Et ils ont été sauvés. Dieu est celui qui nous sauve. Que son nom soit glorifié. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Au ciel, comme sur la terre, Seigneur. Ta volonté, c'est de sauver. Ta volonté, c'est de guérir. Ta volonté, c'est de faire tomber les chaînes. Ta volonté, c'est de régénérer. Ta volonté, c'est de mettre l'espoir dans les cœurs. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Libre de nos chaînes. Gloire à Dieu. Approchez-vous, on va prier pour vous au nom du Seigneur.
Thank you very much. It's praise of God of our you in God's presence. Hallelujah.